l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Présence à Bagnères-de-Luchon, 94 FM.
Merci d'être avec nous à la mi-journée. Il est tout juste 12h01 sur les pendules de Radio Présence. Présence midi jusqu'à 13h. Elle n'est pas en studio aujourd'hui avec moi, mais elle est à quelques centaines de kilomètres, même quelques milliers de kilomètres. C'est Androse Jankovic. Bonjour Androse.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. Non, je ne suis pas au bout du monde quand même.
Non. Voilà, vous êtes du côté de Paris, à la capitale, à la CEF.
Exactement. Je me trouve au siège de la Conférence des évêques de France avec Monseigneur Mika, l'évêque de Tarbes et Lourdes. Et nous participons tous les deux à une session que l'on appelle Media Training. Passionnant.
Voilà, passionnant. Donc aujourd'hui, vous êtes à Paris. Mais hier, vous étiez dans les Hautes-Pyrénées pour suivre cette crise agricole qui touche notre région.
Oui, exactement. Et vous savez, il y a de nombreux blocages un petit peu partout. Et autour de Tarbes, ça ne fait pas exception. Les agriculteurs bloquent les routes. Ils ont des revendications, ils ont des choses à nous dire. J'ai passé pas mal de temps hier avec eux et je vais vous proposer dans quelques minutes d'entendre leurs témoignages.
Ça sera avec des filles effectivement dans un instant. Et puis dans cette émission également, nous irons sur le chemin de Bernadette, ce chemin qui se trouve à Lourdes, avec Julie de l'Office de Tourisme de Lourdes. Mais vous le savez, tous les jours à cette heure-ci, on s'intéresse à l'actualité régionale, justement, Androse, avec les titres à la une, les titres qui seront développés à 12h30. C'est avec Wassim Dir de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Tension sur les routes d'Occitanie, les agriculteurs maintiennent la pression, la ministre de l'Agriculture en visite. Après 10 ans d'attente, le nouvel hôpital du Pays d'Olme ouvre enfin à Lavelanet en Ariège. L'Occitanie fait le point sur l'hydrogène, une journée d'échange autour de cette énergie d'avenir à Toulouse. Une école de musique inclusive voit le jour en Haute-Garonne, une première en France pour les enfants handicapés. Big Flo et Oli de retour au Zénith. 5 dates toulousaines sont prévues pour un show XXL à la maison l'an prochain. La place Saint-Pierre à Toulouse délaisse la fête pour un grand banquet convivial de fin d'année. Chez Tonton et la couleur de la culotte organisent cet événement. Coup dur pour le Stade toulousain. La Ligue nationale de rugby leur retire 2 points et inflige 45 000 euros d'amende.
Merci à Wassim Dir, qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour développer ses titres dans le journal. Wassim Dir qui est étudiant et qui fait partie de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. À tout à l'heure.
Vous avez été nombreux l'an dernier à soutenir l'Église catholique dans ses missions. À vous tous qui avez donné, merci. Afin que l'Église reste présente pour tous, sur le terrain, en particulier auprès des plus fragiles. Et pour qu'elle ait les moyens de poursuivre sa mission au service de la fraternité et de l'espérance dont nous avons tous besoin, votre don est précieux. L'Église ne vit que de dons. Pour soutenir toutes ses actions sur le terrain, donnez à donner.catholique.fr.
Radio Présence dans le Grand Toulouse, 97.9.
La crise agricole se poursuit sur tous les territoires et notamment dans le département des Hautes-Pyrénées. Bonjour Androse Jankovic.
Oui, bonjour Gilles, bonjour à tous.
Hier, vous étiez donc sur les blocages à Tarbes.
Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui marquera encore une étape importante dans cette dans cette crise du monde agricole, bien sûr. Et on dit crise du monde agricole, mais en fait, c'est bien plus large que ça, puisque elle touche évidemment tout le monde. Vous savez que on est dans ce contexte de la DNC, la dermatose nodulaire, mais aussi avec ce contexte du Mercosur. Alors, hier, je suis d'abord allée voir les élèves de Vic-en-Bigorre, le lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Une centaine d'élèves qui s'est mobilisée dès hier matin. Ils ont voulu exprimer leur inquiétude, manifester leur solidarité envers les agriculteurs qui sont en blocage des routes depuis la fin de la semaine dernière, un petit peu partout en Occitanie, autour de Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, un petit peu partout. Alors les cours étaient maintenus au lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Ce n'est pas le chef d'établissement qui organisait la manif, bien sûr, mais Franck Baucher était présent, évidemment, devant l'établissement avant le départ de la manifestation des élèves pour leur redire quelques règles de sécurité, puis aussi pour leur expliquer pourquoi il a sollicité hier la présence de nos deux députés des Hautes-Pyrénées pour venir à la rencontre des élèves de cet établissement. Je vous propose d'écouter Franck Baucher alors qu'il donne quelques instructions à ses élèves avant le départ de la manifestation.
Est-ce que vous avez tous reçu le message que je vous ai envoyé à vos parents, à vous et au personnel?
Bon.
Tous les mots sont pesés dans le message. Il y en a trois qui sont importants, c'est lesquels?
Pas de dégradation.
Pas de dégradation. Respect.
Pas de violence.
Pas de violence, ok. Pas de dégradation, pas de violence.
Respect.
Pas de débordement.
Et l'autre mot, sécurité. Donc, pas de dégradation, pas de violence, respect, sécurité. Si vous voulez que la population et que la société soient derrière vous, ça ne sert à rien de casser, de dégrader et de mettre les gens en insécurité. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Oui.
Deuxième point, vos inquiétudes et vos besoins, vous savez que l'ensemble de l'équipe de l'établissement fait tout pour que vous puissiez démarrer dans la vie avec toutes les compétences qu'il faut. Donc on comprend les inquiétudes que vous pouvez avoir. Le schéma démocratique, il est assez simple. Vous avez les représentants au niveau de l'Assemblée nationale qui sont en département. Ça s'appelle des députés. Est-ce qu'on est d'accord? Il y en a combien chez nous dans les Hautes-Pyrénées? Alors vous voyez, vous savez pas, il y en a deux. Pour moi, deux députés dans les Hautes-Pyrénées, c'est pas trop. Hein. D'accord? Je leur ai demandé de venir. Tout simplement pour qu'ils fassent remonter avec vous. Et je vous demande qu'il y ait quelques représentants pour pouvoir faire remonter les inquiétudes que vous avez et les besoins que vous avez.
Voilà, donc Franck Baucher qui s'exprimait, qui parlait aux élèves de son lycée, le lycée agricole de Vic-en-Bigorre, quelques minutes avant que ces élèves partent en manifestation dans la ville de Vic et aux alentours. Leur objectif, vous l'avez compris, c'est vraiment de manifester leur solidarité envers ces agriculteurs qui sont mobilisés, qui bloquent les routes depuis plusieurs jours, mais qui sont mobilisés pour demander, réclamer un nouveau protocole face à la dermatose nodulaire. Et puis ces élèves qui expriment aussi leurs inquiétudes, puisque eux-mêmes, ils se préparent à engager leur vie professionnelle dans le monde de l'agriculture. Je vous propose maintenant d'écouter ces élèves quelques minutes avant qu'ils partent manifester.
Ben, je suis Mathilde Arnaud et je suis au lycée agricole de Vic-en-Bigorre en première technologique.
Est-ce que tu peux m'expliquer, Mathilde, ce qu'il se passe ce matin à Vic-en-Bigorre, lundi 15 décembre?
On fait une manifestation par rapport à ce qui se passe avec la dermatose nodulaire contagieuse qui touche les bovins et par rapport à l'abattage total et aux méthodes qui sont utilisées sur les éleveurs.
Toi, t'en penses quoi là de tout ce qui se passe?
C'est pas hyper sympa parce que c'est un travail d'une vie et qu'au lieu d'abattre totalement le troupeau, ils pourraient s'en servir pour faire des recherches scientifiques.
Alors, en tous les cas, là, ce matin, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manifester avec ta classe, toutes les classes du lycée agricole?
Le but, c'est juste de se montrer que la jeunesse, on se sent concerné et qu'on veut montrer aussi qu'on est là et qu'on est formé pour ça et qu'on n'est pas là pour rien, quoi.
Donc moi je m'appelle Castéran Corelli, je suis élève au lycée agricole à Jean Monnet et on est là pour défendre un peu ce qui se passe parce que c'est notre avenir qui est en jeu. On n'étudie pas pour ce métier pour rien, faut qu'on reprenne quand même des exploitations pour certains, s'installer. Et Et voilà quoi, parce que si toutes les vaches sont abattues, on ne pourra pas faire notre métier plus tard.
Toi, pourquoi tu veux faire ce métier-là? Parce qu'il y a quand même pas mal de défis à relever, ça fait quand même plusieurs mois, plusieurs années qu'on entend que le monde agricole est en crise, et toi tu es là, tu veux être agricultrice.
Eh bien, j'ai mon papa qui a des vaches, qui est agriculteur, en Auvergne, et après j'ai mon patron là, qui a des vaches, où j'y suis tous les week-ends, où j'y travaille là-bas, et ça me plaît, c'est dehors, c'est... Voilà, c'est... Le contact avec les animaux, l'amour qu'il y a pour les vaches et tout ça.
On sent qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, mais aussi beaucoup d'émotions là parmi les jeunes qui sont avec toi de ce lycée agricole pour manifester aujourd'hui. Toi personnellement, tu la traverses comment cette crise ?
Mais honnêtement, même moi je sais pas trop parce que on ne sait pas si on fait ça pour rien, si on pourra s'installer ou pas. On fait pas ça pour rien. Nous, on est là, on veut du concret, on veut quelque chose qui puisse durer dans l'avenir.
Toi, tu veux avoir des vaches ?
Vaches et brebis si je peux, sinon. On vache.
Donc tout ça, en fait, ça va pas te décourager. T'es inquiète, mais pas découragée.
Non, il faut qu'on se batte, parce qu'on est là, pour tous ensemble, pour se serrer les coudes et arriver à faire son métier plus tard.
Je m'appelle Céline Casabat, je suis en première agri au lycée agricole à Vic, et je suis fille d'agriculteur.
Alors toi, t'es pleinement concernée par ce qui se passe en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu ressens, vis les choses, traverse cette crise avec tes parents qui sont agriculteurs et toi qui as envie de le devenir?
Alors pour moi, enfin, ça nous concerne parce que les veaux, ça va être compliqué pour les faire partir. Oui, il faut vacciner, ça nous promet des choses, mais on attend toujours. Et à voir par la suite ce que ça promet. Pour nous, jeunes, ça va être compliqué. Mais il faut qu'on se fasse entendre, d'où aujourd'hui la manifestation devant le lycée agricole. Oui, ma maman est agricultrice d'une exploitation de bovins de 30 mères limousines. C'est compliqué et on verra par la suite ce que ça donne. Moi, je fais du veau sous la mer et non du broutard. Donc on a cet avantage de pouvoir abattre les bovins pour les boucheries.
Là, la manifestation, la mobilisation des jeunes de lycée dans lequel vous travaillez, pardon, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif en fait ? Quel message vous voulez faire passer ?
Que oui, d'accord, les JA, les CR et tout manifestent, mais que nous aussi, en tant que jeunes, on veut se faire entendre parce que oui, on est derrière, oui, c'est nous l'avenir et qu'il faut quand même nous entendre à nous aussi.
Ça vous décourage, là, tout ce qui se passe, ou coûte que coûte, de toute façon, vous serez agricultrice ?
Non, ça ne me décourage pas, parce que, bon, il faut que nous, jeunes, on se fasse entendre et qu'on reprenne les exploitations et que voilà.
Voilà, donc ces jeunes du lycée agricole de Vic-en-Bigorre, c'était hier matin, lundi 15 décembre au matin, juste avant qu'ils ne partent manifester de manière plutôt paisible et pacifique, une ambiance plutôt bon enfant, mais quand même, ils ont la tête sur les épaules, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent aussi ce qu'ils ne veulent pas pour leur avenir. Eux, ils veulent pouvoir faire leur métier, vivre de leur métier d'agriculteur, d'agricultrice, c'est important pour eux, ils avaient envie de le dire, c'est ce qu'ils ont fait hier matin. Et puis alors, vous savez, dans cette crise agricole, eh bien, les choses vont très vite, parce que chaque jour, il y a de nouvelles étapes. D'ailleurs, ce que je vous raconte aujourd'hui s'est passé donc hier, lundi 15 décembre. Aujourd'hui, mardi, à 14h, je crois, Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées devrait recevoir une délégation des syndicats d'agriculteurs. Et puis on attend les annonces de Madame la Ministre. Alors, tout ça va très vite. En tous les cas, hier, dans la journée, les agriculteurs étaient toujours mobilisés à différents points de blocage, notamment aux abords des autoroutes. C'était le cas, par exemple, à Séméac, où je me suis rendue en fin de journée, où là, eh bien, déjà, depuis vendredi, la coordination rurale des Hautes-Pyrénées, la CR65, est mobilisée, bloque l'entrée d'autoroute au niveau d'Ibos, mais aussi Séméac. Et à Séméac, hier, eh bien, j'ai pu rencontrer Sylvain Arberet, qui est le président de la coordination rurale dans les Hautes-Pyrénées. Il nous explique un petit peu, hier soir, où ils en sont, dans quel état d'esprit ils sont, ce qu'ils réclament. Dans leur tête, c'est clair, ils réclament un protocole très, très précis et ils attendent vraiment ça, une réponse vraiment posée de la ministre. Je vous propose d'écouter maintenant Sylvain Arberet.
Alors bon, on s'oppose à l'abattage total. Aujourd'hui, l'abattage total, il marche pas. Pourquoi ? Parce que dans tous les cas, si l'abattage total marchait, la maladie se serait contenue à la Savoie, Haute-Savoie. On l'aurait jamais eu dans les Pyrénées-Orientales et encore moins dans les Hautes-Pyrénées, encore moins l'Ariège et encore moins l'Oise cet après-midi ou hier c'est tombé, comme quoi le cas il s'était avéré quoi.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire selon vous? Qu'est-ce que vous, vous préconisez? Qu'est-ce que vous demandez comme, comme protocole?
Eh bien, aujourd'hui, le protocole il est simple, on demande un abattage partiel, on demande l'abattage juste de la bête malade, de vacciner plus vite. On reçoit les vaccins que demain, la vaccination va commencer demain ou après-demain, alors que bon, ça va faire une semaine que le cas de Luby est tombé. Donc il faut que l'État soit plus réactif au niveau des vaccins, qu'on ait les vaccins plus rapidement. Aujourd'hui, je demande j'appelle les agriculteurs à faire bloc avec les vétos. Franchement, il faut leur faciliter le travail. Il faut qu'ils vaccinent vite, vite et bien. Donc,
il y a assez de vaccins. Comment ça se fait que les vaccins ne soient pas déjà là et déjà disponibles? Parce que on aurait pu le voir venir quand même, on aurait pu anticiper, on aurait pu les avoir les vaccins, non?
Oui, bon, les vaccins, ils sont quelque part de toute façon. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 1 million de doses en France. Donc 1 million de doses en France, sachant qu'on a 18 millions de bovins en France. Donc à un moment donné, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir vacciner un peu plus large. Pas toute la France parce qu'il n'y a pas assez de doses, mais surtout un peu plus large autour des foyers et surtout être rigoureux dans les transports et tout ça pour éviter que le virus se propage.
Une fois que les bêtes sont vaccinées, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elles peuvent être consommées? Enfin, quelle est la règle?
Bien sûr, de toute façon, un vaccin, dans tous les vaccins, il n'y a aucun délai d'abattage. Pour les vaccins consommés, ça va être les vaches peuvent être consommées, le lait peut être bu, il n'y a pas de souci, peut être consommé aussi. Ça, il n'y a aucun problème. De toute façon, même une vache malade de la DNC, il n'y a pas de conséquences. La viande peut être consommée, le lait pareil.
Alors pourquoi on en arrive là?
C'est la politique de Mme Genevard. Aujourd'hui, il n'y a aucun texte européen qui dit qu'en France, on doit faire l'abattage total. En Italie, ils font déjà de l'abattage partiel. Donc, à un moment donné, il faut qu'elle change de politique, qu'elle écoute les agriculteurs de la base et surtout qu'on arrête l'abattage total. Ça détruit des familles, ça détruit les agriculteurs, ça détruit la profession. Demain, on ne sait même pas si on va pouvoir repeupler nos exploitations. Le problème, c'est que des vaches, déjà, il y en a de moins en moins. Probablement, on retrouve des exploitants qui ne repartiront pas non plus. C'est un traumatisme que personne ne veut subir.
Malgré les indemnités, puisque on a entendu 3 ou 4 000 euros d'indemnité par vache abattue. Ça ne remplace pas un cheptel. 3 000-4 000 euros, c'est la valeur de la viande marchande.
Voilà, alors c'est la valeur de la viande marchande. Derrière, bon, vous avez les pertes d'exploitation. Après, le problème qu'il y a, c'est oui, il y a cette valeur. Parce qu'on fait faire, si l'agriculteur fait faire une expertise, sinon l'État donne 2 100 euros par bovin.
Donc de toute façon, il faut passer par l'étape après, confiance à l'État.
Voilà, après, bon, aujourd'hui, les élevages, qu'est-ce que c'est? C'est deux décennies où on construit un troupeau. C'est de génération en génération pour construire un troupeau.
Alors, c'est-à-dire qu'un cheptel, c'est pas juste avoir des vaches, c'est un choix, un travail, une sélection qui est faite au fur et à mesure des années. C'est ça que vous nous expliquez.
Voilà, la différence un peu avec la grippe aviaire, par exemple, où on tue une bande de canards. Une bande de canards, c'est 4 semaines. 3-4 semaines. Donc, c'est plus facile. Enfin, c'est plus facile. C'est traumatisant aussi. Bon, aujourd'hui, il y a le vaccin. Le problème des vaches, c'est que c'est beaucoup plus long. Avant que vous avez un veau qui naît, une femelle, donc il y a 9 mois de gestation, il vous faut 2 ans pour que ça fasse une génisse, et la génisse, après, elle vous fait le veau 9 mois après. Donc, si vous voulez, c'est très long comme circuit, et aujourd'hui, bon, c'est une perte génétique pour les éleveurs, et une perte tout court pour la France, parce que de toute façon on perd du nombre d'animaux, on perd du cheptel, et ce qui est pas du tout bon pour notre souveraineté alimentaire quoi.
Alors là aujourd'hui vous êtes encore à la bretelle d'autoroute de Séméac, c'est quoi la suite là pour vous?
Alors la suite pour nous, forcément si les annonces de Madame Genevard, de notre ministre, ne changent pas, qu'elle ne suit pas notre motion qu'on a fait remonter au préfet et qui a fait remonter dans ses services.
Donc là en ce moment il y a une discussion, là au moment où on enregistre, ils sont en discussion et ce lundi soir il y aura une annonce peut-être ou mardi dans la journée.
Oui, voilà, bon. Donc on va voir ce qu'elle dit. Si elle n'accepte pas notre motion, de toute façon, et surtout l'arrêt de l'abattage total, de toute façon, nous, on va durcir le mouvement.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire, je ne sais pas, on approche des vacances de Noël. Je ne sais pas si le ski, tout ça, si tout le monde pourra aller skier.
Vous allez bloquer l'accès aux stations de ski ?
Je ne me prononcerai pas plus, mais je pense que c'est assez clair ce que j'ai dit.
C'est quoi l'ambiance ici là ? Alors là, vous êtes président de la CR 65, Coordination Rurale. Vous n'êtes pas tout seul à être mobilisé, même si là autour de vous, il y a beaucoup de casquettes jaunes. Vous n'êtes pas tout seul à être mobilisé. Comment ça se passe entre vous, les différents syndicats ? Quelle est l'ambiance ?
Oui, on discute beaucoup. Moi, je suis en relation directe avec le président des jeunes agriculteurs. Les relations, on parle tous de la même chose. Pour une fois, on est tous d'accord. Ce qui n'est pas bon signe, c'est qu'il y a vraiment...
Ça, c'est assez nouveau quand même que vous soyez tous d'accord.
Oui, ça ne s'est jamais vu dans le département. Donc, la Chambre d'agriculture nous a rejoints aussi. A été un peu contrainte de nous rejoindre aussi, de toute façon. Mais là, on s'est tous mis d'accord. On parle tous de la même voix. Maintenant, il va falloir qu'il bouge.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, Sylvain Arberet, le président de la CR 65, la Coordination Rurale 65, qui nous explique que l'abattage total, c'est une perte génétique pour les éleveurs. Sylvain Arberet, qui, vous l'avez entendu, qui explique le protocole qu'il réclame à la ministre. Alors, vous entendez que tout cela, finalement, ces blocages de route, en tous les cas, là où je me trouvais hier en reportage à Séméac, on entend que ça se fait quand même dans un calme, en tous les cas, un calme relatif. C'est aussi ce qu'est venu constater le maire, M. Boubet, le maire de Séméac, qui est aussi conseiller régional, qui vient voir les agriculteurs mobilisés tous les jours sur ce rond-point de Séméac. Il était présent hier soir. On l'écoute.
Philippe Aubé, maire de la commune de Séméac et conseiller régional.
Monsieur le maire, là vous êtes présent au blocage constitué par les agriculteurs juste à l'entrée de l'autoroute à Séméac. Pourquoi vous êtes présent ici ? Qu'est-ce que vous avez envie de passer comme message aux agriculteurs ?
Passer le message déjà que les élus sont avec eux. En tout cas, beaucoup d'élus de ce territoire. C'est un département rural. Ils sont sur ma commune. Ça fait depuis qu'ils y sont, je viens les voir tous les jours. On discute, on attend de voir ce qui se décide au niveau gouvernemental. Donc c'est mon devoir en tant qu'élu d'être à leur côté. Comme je disais, c'est un département rural. Et puis on attend la décision de la ministre. Moi, j'ai pas eu encore d'écho. Je ne sais pas si une décision a été prise. C'est vrai qu'un abattage systématique de tous les troupeaux, c'est une décision grave. Et puis, c'est vraiment des familles en jeu, hein, parce que c'est l'élevage d'une vie pour certains, de plusieurs générations. Détruire tout un cheptel, je pense qu'il y a peut-être des solutions intermédiaires, des protocoles.
Par exemple, comme solution intermédiaire, vous, en tant qu'élu, les agriculteurs que vous rencontrez, qui sont peut-être des habitants de votre commune, ils vous disent quoi ? Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Pas forcément un abattage systématique, faire des prélèvements, voir si tout le troupeau est vraiment contaminé. Je sais qu'ils ont proposé des protocoles, peut-être à les suivre. Je pense aussi que ça arrive peut-être un peu tard, d'après ce que j'ai cru comprendre. Hein. Je ne suis pas un spécialiste de l'agriculture, mais je pense que ça arrive un petit peu tard. Je suis conseiller régional. Un plan d'aide d'urgence de 300 000 euros a été voté vendredi lors de la commission permanente. Je sais qu'il y a peut-être d'autres aides qui sont prévues. Bon, la présidente de région a écrit d'ailleurs une lettre ouverte à Monsieur le Premier ministre, Le Cornu, en disant, attention, écoutons-les quand même, parce que c'est eux qui vivent sur leur exploitation, c'est eux qui font vivre le territoire. On a une autonomie alimentaire. C'est grâce à nos agriculteurs qui sont sur le terrain, qui occupent notre espace rural. Et je pense que c'est normal, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, d'être à leur côté et d'écouter leurs revendications parce que c'est une profession qui souffre.
Vous l'avez senti, la colère, l'inquiétude monter au fil des mois, parce que là, on découvre pas la situation. Enfin, ça explose depuis quelques jours, mais ça couve depuis longtemps. Est-ce que vous avez senti, vous, cette inquiétude monter ?
Oui, on l'a senti, puis surtout c'est qu'on ne sentait pas venir une décision du gouvernement, une application. Le vaccin, on l'a depuis un moment. Il fallait le faire arriver sur les territoires. Je crois qu'il y a 28 jours d'incubation, donc c'est long, quoi. Donc même là, si on vaccine tout le cheptel des Hautes-Pyrénées, je vais parler pour mon département, l'attente va être encore longue quand même, hein, avant de savoir si vraiment les vaches sont immunisées. Il y a eu vraiment du retard. Alors les raisons, je ne les connais pas. J'espère qu'elles ne sont pas bassement financières mettre des exploitations sur un retard comme on le constate actuellement, c'est pas admissible.
S'agissant du blocage, quel impact ça a pour votre ville, ce blocage-là, des routes, cette mobilisation des agriculteurs, comment vous, en tant que maire, vous la vivez, cette situation ?
La première des choses, quand je suis arrivé, j'aurais dit, vous ne me cassez pas tout. Bon, et puis après, ça se passe bien.
Ils ne
cassent pas tout. Parce que je leur ai dit, vous savez, c'est pas l'État qui va payer derrière. Hein.
C'est une vraie question, pardon, c'est la municipalité qui va payer.
Oui, bien sûr, si on est sur les équipements municipaux qui sont cassés, c'est la municipalité. Donc, moi, je pense que là-dessus, ils ne sont pas du tout dans cette logique-là. Hein. C'est d'occuper le terrain, de bloquer pour montrer leur désaccord fort. Après, ça se passe bien, hein. Vous savez, ça fait trois fois que je viens, hein. Tous les jours je viens, j'ai pris l'apéro avec eux, on a discuté, ça se passe très bien.
Hein. Et les riverains, là, alors pour les auditeurs de Radio Présence là, qui n'ont évidemment pas l'image, est-ce que vous pouvez décrire un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour ?
Quand on passe sur le rond-point qui mène à l'autoroute, déjà on ne peut pas accéder à l'autoroute, après c'est la route qui monte sur Barbazan de Batte, sur Tournaille, on met un peu plus de temps pour y arriver. Il y a une gêne, mais en tout cas, il n'y a aucun geste d'énervement, ou alors très très peu des automobilistes, des personnes qui passent. Je pense qu'il y a quand même une certaine solidarité. On est un département rural, donc on est tous un petit peu issus du monde rural, on a toujours un peu de la famille, on est fortement concernés, parce que c'est ce qui fait un peu l'essence même de notre département. Quoi, hein. Je pense qu'il y a vraiment une solidarité qui s'enclenche. Bon, je sais qu'on leur porte à manger, on leur porte... Il y a une solidarité. Maintenant, je pense que la ministre doit les écouter. Ça, c'est sûr.
Ils ont annoncé que, selon les déclarations de Madame la ministre ce lundi soir, le blocage pourrait durer, y compris pendant les vacances de Noël, y compris sur des axes qui permettraient l'accès à des lieux plutôt touristiques. C'est un peu la menace qu'ils font. Ça, vous comprendriez qu'ils en viennent là ?
Moi, je comprends leur désarroi. Hein. Je comprends. C'est sûr que quand vous avez un cheptel d'une centaine de bêtes et qu'on vous dit on va tout abattre, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est toute une vie quand même. Hein. Pour certains, c'est une transmission de père en fils. Hein. Donc, c'est sûr que du jour au lendemain, vous avez les vétérinaires qui viennent. Puis je pense qu'ils sont plus là pour sauver les bêtes que les tuer et qui vous abattent tout le troupeau. Je peux comprendre vraiment qu'on soit à bout, quoi.
Merci, monsieur le maire.
Je vous en prie.
Voilà, écoutons nos éleveurs. Voilà ce que nous disent ici le maire de Séméac, mais ce que nous disent les élus locaux de manière générale, hein, les élus locaux qui sont allés vraiment rencontrer ce week-end ces agriculteurs mobilisés. Pour terminer ce reportage, je voudrais vous faire écouter le président des JA, les jeunes agriculteurs. Alors eux aussi, ils ont la politique de Madame Genevard, la ministre de l'Agriculture, dans le collimateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur ça, ils rejoignent vraiment la coordination rurale des Hautes-Pyrénées. Je vous propose d'écouter donc le président des JA.
Clément Simien, président des jeunes agriculteurs des Hautes-Pyrénées.
Voilà, alors est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui se passe ce soir ici au rond-point de l'autoroute de Séméac ? Où en sommes-nous ?
Alors là où en sommes-nous, donc ça fait 4 jours qu'on est mobilisés, même un peu plus pour ceux qui étaient au pied de l'élevage qui a été abattu, du lot qui a été abattu.
À Luby-Bêtement,
c'est ça. Aujourd'hui, notre position par rapport à ce qu'a dit la ministre il y a quelques minutes, on va rester sur place. Nous avons rendez-vous demain après avec le préfet à 14h. Donc on va aller le rencontrer pour voir aussi ce qu'il a à nous dire et attendre. Donc on sait que la ministre est en rendez-vous ce soir avec les représentants de chambre, des syndicats et des éleveurs qui ont été touchés. Donc on va attendre ce qu'elle sort de ce rendez-vous. Pour l'instant, donc, mis à part l'élargissement de la zone vaccinale, elle ne bougera pas sur l'abattage total. Voilà, on attend de voir ce qui va ressortir de cette réunion.
Quel est votre discours? Si, s'il y a une vaccination plus élargie, il n'y a pas besoin d'un abattage total? On abat seulement les bêtes qui sont vraiment atteintes, c'est ça votre souhait?
C'est ça. Alors l'élargissement, c'est plus pour protéger après les autres départements. Après, bon, nous maintenant dans l'Haute-Pyrénées, vu qu'on est concerné, on va dire que voilà, le mal est fait, donc autant tout vacciner et pour limiter la propagation et continuer à l'élargir un maximum. Voilà, nous,
tout vacciner, ça veut dire toutes les bêtes de tous les cheptels de toutes les Hautes-Pyrénées?
C'est ça, voilà, tout le département doit être vacciné, donc ça va démarrer, je crois, donc demain, mardi, et après ça va être des longues journées pour les vétérinaires et tous ceux qui vont aller les aider, mais voilà, que ça aille au plus vite pour protéger tous les troupeaux, pour limiter qu'il y ait d'autres cas qui ressortent sur le département, quoi.
Comment ça se passe avec les vétérinaires, justement? Parce que eux, comment ils se positionnent par rapport à vous? Eux, ils sont là pour vous aider, a priori?
Ah oui, bien sûr, les vétérinaires, leur objectif, ils nous ont contacté aussi les syndicats agricoles pour nous dire que voilà, l'objectif c'est d'aller au plus vite, donc de leur faciliter le travail dans les règles sanitaires, bien sûr, pas se mettre en danger aussi. L'objectif c'est de vacciner au plus vite, donc ils se sont organisés depuis jeudi déjà. Ils se sont organisés entre eux pour... par rapport aux zones vaccinales, l'objectif c'est ça, c'est marteler ça, d'aller au plus vite, de tout vacciner pour que le département soit protégé le plus rapidement possible.
Donc on sait qu'ici pour les Hautes-Pyrénées, on a assez de vaccins, c'est combien de bêtes à vacciner, on sait ça?
C'est à peu près sur le département, donc 90 000 bovins à vacciner. Peut-être même un peu plus parce qu'ils ont rajouté, donc aujourd'hui il faut vacciner depuis un bovin de un jour, donc avec les veaux, donc il y aurait peut-être un peu plus, peut-être 100 000 bovins. Mais voilà, aujourd'hui, de ce qu'on sait, il y aurait les doses pour le département, ainsi que pour les départements aux alentours qui sont rentrés dans la zone vaccinale depuis 48 heures. La ministre de l'Agriculture a dit qu'elle avait débloqué, commandé 1 million de doses de plus. Est-ce que c'est pour élargir la zone? Elle n'a pas été très précise, elle a dit qu'elle allait élargir, mais on ne sait pas jusqu'à où. Est-ce que c'est la région Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, les deux, plus? On ne sait pas. Sur la vaccination, c'est tout ce qu'on sait pour le moment.
Vous, au JA, les jeunes agriculteurs, vous êtes dans quel état d'esprit? C'est quoi l'ambiance? Est-ce que vous êtes toujours en colère? Est-ce que vous êtes dans l'attente? Est-ce qu'il y a un petit peu de tout ça? Qu'est-ce que vous avez envie de dire, en fait?
Nous, on est dans l'attente. Il y a un peu de tout ça parce que... on a vu là 2 ans, ou il y a un an, je ne me rappelle plus maintenant, mais voilà, il y avait aussi une grosse mobilisation parce qu'on était en difficulté. On est une région quand même assez sinistrée au niveau agricole. Il y a cette maladie qui se rajoute en plus là-dessus. Il y a un profond ras-le-bol. On le voit, c'est, je pense, historique que tous les syndicats ont signé la même feuille de route. Donc, c'est qu'il y a quand même un gros ras-le-bol de tous les éleveurs et agriculteurs en général, sans parler de syndicalisme. Donc, voilà, nous, ce qu'on attend, c'est avoir des réponses concrètes. Bon, là, sur ce sujet-là, qui est très urgent, mais aussi sur le reste, quoi.
C'est... Là, on est quand même dans le contexte Mercosur, en plus, donc voilà. Ça rend la chose encore plus urgente.
Et voilà, c'est ça. Il y avait déjà des mobilisations qui ont été faites et qui avaient été prévues donc, pour le Mercosur. Elle en a parlé un peu, mais voilà, ça reste toujours très vague. On ne sait pas trop où ça en est. Ils ont toujours été assez flous sur ce sujet depuis des années. De toute façon, aujourd'hui, nous, la position, c'est qu'on n'a plus aucune confiance en eux parce que voilà, on nous promène un peu depuis des années, quoi.
Alors, c'est ça qui est assez frappant, c'est que vous dites on vous promène un peu depuis des années. Pourtant, ça fait quand même des années que le monde agricole alerte, explique, prévient, essaie d'anticiper. Alors, pourquoi ça ne marche pas, en fait? Pourquoi on n'est pas capable précisément d'anticiper? Pourquoi on a l'impression qu'on va de crise en crise alors que, en fait, si on vous écoute, vous les agriculteurs, ce qui se passe aujourd'hui, vous l'aviez quand même un peu pressenti, quoi.
Oui, c'est ça, c'est résumé. Donc, quand on voit le monde agricole aujourd'hui, on n'arrive pas à combler que ce soit les cessations d'activité ou les départs à la retraite par désinstallés, parce que le monde agricole est tellement en difficulté, que ce soit avec les années compliquées au niveau climatique, où là, toutes les maladies, ça fait 4 ans qu'on prend une maladie par an différente, que ce soit sur les bovins, les ovins, etc. Surtout voilà, en région Occitanie, c'est là où tous les mouvements ont démarré depuis 2-3 ans. Donc la situation reste assez complexe. Et pourquoi on n'est pas écouté? très bonne question. Quand on voit tous les mouvements qu'il y a eu, on se dit peut-être qu'il y a quelques réponses. Donc bon, je sais qu'il y a un mois de ça, donc JAFED, on avait fait une manifestation à Toulouse parce qu'on avait le président qui venait, il nous a fait des promesses, mais c'est toujours pareil, on a des promesses, mais on n'a jamais d'acte derrière, on attend. Voilà, il nous fait des promesses pour nous calmer, mais derrière, on n'a toujours rien. Donc je pense que là, voilà, là c'est un ras-le-bol et c'est pour ça que la colère a augmenté, qu'elle s'est durcie plus que ce qu'on a eu fait il y a deux ans. Et voilà, jusqu'où on va aller, je ne sais pas. Mais bon, ça serait bien qu'un jour, on soit écouté, quoi.
Vous pensez là que cette mobilisation, enfin, vous êtes prêt en tous les cas à vous mobiliser autant de temps qu'il faudra, vous n'allez pas lâcher, quoi.
Ben, au moins sur la DNC, non, je pense qu'on lâchera pas parce que on est quand même un département d'élevage et voilà, tous les éleveurs ont peur pour leur élevage, quoi. Donc, même pour leurs voisins, et on n'a pas envie d'être les prochains sur la liste. Hein. Donc, je pense que sur ça, vu la mobilisation qu'il y a un peu tous les soirs et toute la journée, je pense qu'on lâchera pas.
Vous, les JA, donc par définition, vous êtes jeune, ça vous décourage pas? Vous vous dites pas, bah, allez, moi je suis jeune, il est encore temps que je change de voie, je vais pas passer ma vie à me battre contre ces situations-là?
C'est un métier, de toute façon, voilà, bon, bien sûr, l'objectif c'est d'en vivre, mais ça reste un métier de passion aujourd'hui. Donc, bien sûr qu'il y en a qui vont lâcher en route parce que tout ça, ça dégoûte et on les comprend. Mais c'est sûr que voilà, quand on voit qu'il y a encore des jeunes qui s'installent, etc., on dit qu'il y a encore quand même de l'espoir, mais c'est sûr que ça reste. Je peux comprendre que certains s'en découragent de partir, de s'installer dans le milieu agricole.
Ce matin, les jeunes du lycée agricole de Vic-en-Bigorre se sont mobilisés. Alors eux, ils n'ont pas encore commencé leur vie professionnelle. Moi, j'ai tendu mon micro de radioprésence à ces jeunes-là qui ont envie d'y croire quand même. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à eux? Oui, ils ont raison d'y croire, ou quel conseil vous avez envie de leur donner en fait?
Ouais, moi je suis un éleveur passionné, donc moi j'y croirai tout le temps. Voilà, c'est même pas le syndicaliste qui parle. C'est moi pour eux, j'ai envie de leur dire d'y croire encore, parce que voilà, des crises on en a traversé, des maladies, voilà, il y en a eu depuis des années. On est toujours passé à travers avec ce genre de mobilisation ou parce qu'on a réussi à obtenir des choses. Donc moi pour moi, voilà, le message que je vais leur faire passer, c'est continuer à y croire, qu'on va y arriver, et qu'on lâchera pas pour eux et pour les autres.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Voilà pour ce reportage Anne-Rose Jankovic, reportage que vous avez réalisé hier lundi dans les Hautes-Pyrénées. Hein.
Oui, alors et puis vous l'avez bien compris, les choses bougent très vite. On s'attend en tous les cas à ce qu'elles bougent, on attend aussi des déclarations, peut-être même qu'au moment où je vous parle, il y a des déclarations qui sont en cours. Donc il faut être attentif. En tous les cas, ce que ce reportage nous montre, c'est que vraiment les agriculteurs réclament une vaccination large. 1 million de doses sont disponibles en France et ça va être en cours. C'est en cours à partir d'aujourd'hui. C'est déjà un soulagement pour les agriculteurs. Juste à la fin de mon reportage à Séméac hier, un agriculteur me disait quand même en off qu'il reste une question. Oui, c'est un soulagement que les vaccins arrivent, soient mis en place et que cette vaccination très large puisse enfin être mise à exécution, mais il y a quand même une question: est-ce que le consommateur voudra-t-il manger ou pourra-t-il manger en toute sérénité cette viande vaccinée? Voilà la question qu'un agriculteur m'a dit en off un petit peu hier en fin de reportage. C'est une question qu'il faudra peut-être se poser dans les jours à venir, mais en tous les cas sur Radio Présence on reste mobilisé pour suivre vraiment de près cette crise du monde agricole, donc avec cette maladie, la dermatose nodulaire, et dans ce contexte du Mercosur.
Voilà pour ce reportage que vous avez réalisé donc hier dans les Hautes-Pyrénées. Merci Anne-Rose Jankovic.
Merci.
Radio Présence dans la Haute-Ariège, 92.7.
Et Anne-Rose, on vous retrouvera jeudi, puisque vous l'avez compris, aujourd'hui, vous n'êtes pas dans le studio de Radio Présence pour l'habituel rendez-vous à Agenda, mais vous êtes du côté de Paris, hein.
Oui, je suis à Paris à la conférence des évêques de France et la Bigorre me manque déjà. Depuis 6h du matin que j'ai quitté la Bigorre et les quatre vallées, mais j'ai vivement le retour.
Voilà, retour prévu ce soir.
Bien sûr.
Bon, ce que je fais.
C'est déjà trop.
Bah écoutez, je vous envoie une photo des montagnes, des Pyrénées là, depuis la fenêtre de Radio Présence.
Je veux bien.
Vous allez tenir jusqu'à ce soir.
Mais j'espère. Bon.
Merci Anne-Rose Jankovic. Allez, à suivre dans les prochaines minutes. Eh bien, nous irons sur le chemin de Bernadette. Ça se trouve à Lourdes avec Julie de l'Office de Tourisme. Mais pour le moment, place à l'actualité régionale avec le journal qui est présenté par Wassim Dir, qui est un étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse.
Bonjour à toutes et à tous. En Occitanie, les syndicats agricoles ont uni leurs forces hier encore. Des actions de mobilisation sont en cours sur plusieurs routes et autoroutes de la région. Face à cette colère grandissante, la ministre de la Culture, Annie Genevard, s'est rendue hier en Haute-Garonne pour rencontrer les représentants du mouvement. Des manifestants occupent toujours plusieurs points stratégiques, dont les péages de Muret et d'Eurocentre, ainsi que plusieurs ronds-points à Villefranche-de-Lauragais. Hier soir, la situation était chaotique sur les autoroutes et grands axes autour de Toulouse, notamment sur le périphérique. Après plus de 10 ans de projet, le nouvel hôpital du Pays d'Olme a enfin ouvert ses portes à Lavelanet, en Ariège. Inauguré hier, cet établissement, porté par le Centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège, CHIVA, offre un accès renforcé aux soins pour les habitants de ce territoire rural et montagnard. Le pôle de recherche et d'innovation sur l'hydrogène en Occitanie, le RHIRO, fait le point aujourd'hui sur ses travaux à la cité de Toulouse, avenue Louis Breguet, de 9h30 à 17h. Chercheurs et acteurs régionaux échangeront autour des progrès de cette énergie d'avenir. La région Occitanie poursuit son soutien aux établissements toulousains engagés dans le développement de la filière hydrogène. À Toulouse, une première en France, une école de musique dédiée aux enfants en situation de handicap va bientôt voir le jour. Porté par une campagne de financement participatif, ce projet vise à offrir à ces jeunes des cours adaptés et du matériel spécifique. L'objectif, leur permettre d'apprendre la musique dans les mêmes conditions que tous les élèves, avec l'aide de musicothérapeutes et de supports inclusifs. Les rappeurs toulousains Big Flo et Oli annoncent leur grand retour sur scène à la maison. Le duo prévoit 5 concerts au Zénith de Toulouse les 17, 18 et 19 avril 2026, puis les 14 et 15 mai de la même année. De quoi rassembler plus de 50 000 spectateurs dans la plus grande salle de la Ville Rose. Leur dernier show toulousain remontait à juin 2024, lorsqu'ils avaient rempli 2 fois le stadium. La célèbre place Saint-Pierre troque ses soirées festives pour un moment gourmand et convivial. Deux établissements emblématiques, Chez Tonton et La Couleur de la Culose, organisent demain un grand banquet ouvert à tous. Une manière originale de fêter la fin d'année avant les vacances, au cœur du quartier étudiant le plus animé de la ville. Enfin, les Toulousains étaient en attente de leur sentence. La décision est tombée pour le Stade Toulousain. Après plusieurs jours de délibération, la Ligue nationale de rugby a annoncé hier soir une sanction contre le club. Toulouse écope donc d'un retrait de 2 points au classement du top 14, assorti de 2 points avec sursis ainsi que d'une amende de 45 000 euros, dont 15 000 avec sursis.
Merci à Wassim Dir, voilà, qui est étudiant au sein de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse. Retour de l'info sur notre antenne à 13h avec la rédaction française de Radio Vatican. Dans un instant, direction la ville de Lourdes, on ira sur le parcours du chemin de Bernadette et on s'arrêtera plus précisément au Cachot et au Moulin de Bolly. C'est avec Julie de l'Office de tourisme de Lourdes.
Et si tout sonne faux, toi tu sonnes vrai. Je préfère tant trop au pas assez. Tu feras la différence. Ton cœur prend des vacances. Il danse avec les loups. Résiste. Tu feras la différence. La photo fige, un peu de flou, un peu de nous. Les tornades nous rappellent qu'on tient debout. Et sur mon piano, tout sonne vrai. Je préfère tant trop au pas assez. Tu feras la différence.
Radio Présence à Figeac 97.7. Balade en pays de Lourdes en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Direction cette semaine le chemin de Bernadette dans nos balades en pays de Lourdes et c'est Julie que j'ai le plaisir d'accueillir. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes et on a décidé cette semaine de s'attarder sur deux lieux emblématiques de Lourdes sur ce chemin de Bernadette. C'est le cachot et le moulin de Bolly, un des moulins les plus visités dans le monde finalement.
Exactement. Alors, c'est une nouveauté. Alors, nous avons un chemin de Bernadette qui existait déjà auparavant avec des clous en laiton dans les rues de la ville de Lourdes qui regroupent ces lieux de vie. Et nous avons également maintenant des spots vidéo sur certains lieux qui permettent de reconstituer, de vraiment de voir, de s'immerger dans la vie de Bernadette autrefois sur les lieux, ces lieux de vie. Et nous avons notamment à Lourdes la chance d'avoir gardé quasiment intact deux de ces lieux vraiment qui sont emblématiques de Sainte Bernadette, puisque ça va être le moulin de Bolly, où elle est née, sa maison natale, et le cachot où elle vivait à l'époque des apparitions. Donc c'est vraiment deux lieux qui sont quand même assez importants sur ce cheminement. Mais ce qu'on sait moins, c'est que ces deux habitations de la famille Soubirous existaient bien avant Bernadette et bien avant tous les événements de 1858. Par exemple, le moulin de Bolly, voilà, ça va être l'un des moulins les plus visités au monde du fait de son histoire liée à Bernadette, mais il était également très ancien. Il date d'avant le XVIIIe siècle et il faisait partie de très nombreux moulins qui se trouvaient sur le ruisseau du Lapaca. Alors, le ruisseau du Lapaca, c'est un ruisseau qu'aujourd'hui on ne voit plus à l'œil nu, mais qui existe bel et bien toujours, puisqu'il se trouve sous le boulevard de la Grotte. Voilà, le boulevard de la Grotte qui avait été construit pour faciliter l'accès des pèlerins jusqu'au sanctuaire entre la gare et le sanctuaire. Et le long de ce moulin, alors il y avait environ 13 moulins à eau. En tout, dans Lourdes d'autrefois, il y avait 18 moulins. Certains étaient sur le Gave, mais c'était quand même des moulins plus conséquents, vu que le Gave avait quand même plus de débit, il permettait de faire tourner plus de meules, et donc ça, souvent c'était plusieurs familles qui pouvaient vivre dans ces moulins. Là, sur la PACA, dans les 13 petits moulins, il y avait en général une famille qui était locataire par moulin, et qui devait reverser ensuite une partie de sa récolte, enfin de sa production à des propriétaires. Et le moulin Bolly a un nom un peu particulier, c'est un nom d'origine anglaise, le nom de ses anciens propriétaires en fait qui est resté. C'était maître David de Bolly, qui était maître chirurgien anglais et qui est venu s'établir, à Lourdes. Bien des années plus tard, la famille de Bernadette va y arriver, notamment par François Soubirous, qui est son père, qui va épouser Louise Castéro. Alors après, François Soubirous, il n'était pas très loin. Hein, il venait d'une famille qui était d'un moulin juste en dessous. Donc il n'a pas déménagé trop loin. Et Louise Castéro, elle vivait avec sa mère et ses trois sœurs au moulin de Bolly. Et c'est là que Bernadette va voir le jour. Et va grandir une partie de son enfance. C'était le moulin, selon ses termes, le moulin du bonheur, vu qu'elle y a passé de très belles années de sa vie. Et par contre, c'est en 1852 que le propriétaire du moulin le vend, et que là, son père, François Soubirous, ne va plus pouvoir payer le loyer. C'est à partir de là qu'ils vont commencer à déménager.
Alors, ce moulin de Bolly, le ruisseau du Lapaca, lorsqu'on se balade à Lourdes, on ne le voit pas lui, puisqu'il est sous le boulevard.
Exactement, on le voit plus, il est sous le boulevard de la Grotte. Il a été un petit peu enterré à partir du moment où les pères de la Grotte ont fait des grands travaux d'urbanisme en faisant construire tout un boulevard entre la toute nouvelle gare ferroviaire qui permettait d'amener des pèlerins plus facilement à Lourdes et pour les faire arriver jusqu'à la porte Saint-Michel. Il y a notamment la construction du pont Saint-Michel qui va être un temps fort et vraiment un énorme chantier pour pouvoir enjamber le Gave.
Voilà pour ce premier lieu de vie de Bernadette et donc ce moulin de Bolly que l'on peut visiter. Le deuxième lieu, c'est le cachot. Alors pourquoi le cachot ?
Exactement. Alors le cachot, c'est vrai que c'est un nom particulier. Souvent, on peut nous demander à l'Office de tourisme, mais pourquoi Bernadette était en prison ? Mais pas du tout, en fait. C'est un nom, comme le moulin Bolly, finalement, le nom est resté à travers les époques, mais ça n'en était plus un. C'était une ancienne prison, effectivement, mais qui avait été désaffectée depuis 1824. Donc c'était plus de 30 ans avant les événements de 1858. Et c'est une petite pièce unique, vraiment très petite, un petit local finalement qui avait été vendu par la municipalité et qui de fil en aiguille est parvenu au cousin de la mère de Bernadette, donc qui s'appelait André Sajous, et qui devant finalement la pauvreté de la famille Soubirous, qui à ce moment-là a déjà connu 3 déménagements avant d'arriver au cachot, va leur céder la petite pièce. Donc ils vont vivre à 6 dans cette pièce et ils arrivent au cachot en mai 1856.
Le cachot qui est donc rue des Petits Fossés. Un mot peut-être pour terminer du dernier lieu de résidence à Lourdes de Bernadette.
Oui, alors voilà, par rapport à la rue des Petits Fossés aussi, pour resituer un petit peu, par rapport à la ville médiévale, c'est un nom qui est resté également de cette rue, puisque c'était l'enceinte, finalement, la délimitation de la ville autrefois. Les remparts arrivaient rue des Petits Fossés. Le nom est resté parce que c'était des fossés qui étaient en eau, donc c'était quand même un quartier qui n'était pas très salubre. Ils avaient été asséchés quand même bien avant l'arrivée de Bernadette au cachot, donc c'était déjà une rue, mais ça restait quand même une rue très étroite. Il y avait encore des anciens bouts de remparts, donc c'était quand même assez petit, le soleil ne passait pas trop. C'est pour ça que c'était quand même assez insalubre comme lieu. Et effectivement, après les apparitions, donc après 1858, dans la famille de Bernadette, on leur a conseillé de déménager, puisque voilà, ce n'était plus possible de rester là. Et effectivement, ils vont quitter le cachot, ils connaîtront ensuite 3 autres déménagements. Et finalement, juste avant que Bernadette ne parte pour le couvent des sœurs à Nevers, sa dernière soirée, elle va la passer à Lourdes, au moulin Lacadé. Alors on le connaît aussi comme la maison paternelle, mais c'était un autre moulin encore, sur le ruisseau du Lapaca. Et ce moulin, il avait été acheté par le diocèse. Alors, il a d'abord été loué, puis acheté par le diocèse de Lourdes pour pouvoir héberger la famille Soubirous dignement. Et Bernadette y passera sa dernière soirée en juillet 1866 avant de partir pour Nevers. Elle ne reviendra plus à Lourdes après cela, mais sa famille continuera à y vivre. Et d'ailleurs, c'est encore la famille Soubirous qui gère cette maison paternelle.
Voilà, 2 lieux que l'on peut visiter à Lourdes. Ces 2 lieux sont sur ce chemin de Bernadette, avec désormais un chemin digital, vous l'avez dit. On a donc parlé avec vous, Julie, du cachot et du moulin de Beaulieu, à ne pas manquer si vous venez à Lourdes. Voilà, un grand merci Julie, on se dit à très vite pour une nouvelle balade en pays de Lourdes. Je rappelle que vous faites partie de l'Office de tourisme de Lourdes. À bientôt.
Merci beaucoup Gilles, à bientôt.
Balade en pays de Lourdes, en partenariat avec l'Office de tourisme de Lourdes.
Allez, un petit café et on commence la journée.
Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Présence, il est 7h, très bon début de journée.
Et quoi de mieux que Présence Matin pour se réveiller? Tous les matins, de 7h à 9h, retrouvez Jonathan Botello pour vous donner le sourire, la bonne humeur et des cadeaux. Et il n'est pas seul, il est accompagné d'Isabelle Duché et de ses invités à 7h40. Présence Matin, l'émission qui égaye votre quotidien.
When you're in the world, world, world.
Dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
De réels progrès dans les discussions de paix entre Ukrainiens, Américains et Européens.